le président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Pas de rougis, les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blousé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, je reçois Giovanni Michel. Giovanni, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler amérindien. Et le chant des hommes. Donc, Giovanni Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, me présenter plutôt, parler de mon travail.
Oui.
L'écriture, en fait, m'accompagne depuis toujours, quasiment.
31 livres, quand même.
31 livres. Et d'autres qui ne sont pas publiés, qui sont dans mes cartons. Et puis, la passion pour les Amérindiens, de la même façon, m'accompagne depuis, ma plus tendre enfance. Je ne me souviens pas de moments où je n'ai pas écrit, ni de moments où je ne me sois pas intéressé aux Amérindiens. J'ai des souvenirs... À l'âge de 7 ans, j'avais acheté un album Panini. Je ne sais pas si ça existe
oui,
encore, les images Panini.
Alors, pas Panini, mais les images que collectionnent les jeunes, oui, toujours.
Et donc, c'était un album qui était consacré aux Indiens d'Amérique. Et je me l'étais acheté. Je connaissais à 7 ans les noms de tous les personnages qu'il y avait dans cet album. Je sais parce que j'ai retrouvé l'album dans le grenier de mes parents il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je me suis un peu tourné au tout début de l'écriture vers beaucoup de poésie et de nouvelles. Mmh. qui, comme chacun sait, ne se rendent pas du tout. Donc
j'ai
essayé de,
très mal.
De les faire éditer et c'était un fiasco total. Et puis, les années passant, j'ai écrit aussi sur le village italien de mon père. Et en 1999, quand j'y suis allé, la municipalité m'a encouragé à faire de mon travail préparatoire un livre en me disant « En 2000, c'est le jubilé, c'est l'occasion de publier un ouvrage achevé. » Et j'étais un peu pris par le temps. Je me suis dit que je ne trouverais jamais un éditeur qui voudrait publier un bouquin sur un village italien. Donc je l'ai fait moi-même et c'est à cette époque que j'ai créé donc mes éditions « Le Chant des Hommes ». Et mon premier livre publié en 2000 était donc sur le village italien de mon père, en version française et en version italienne. Et étonnamment, il s'est beaucoup plus vendu en France qu'en Italie.
Comme quoi ?
Il faut croire que les Français sont plus intéressés par le sud de l'Italie que les Italiens eux-mêmes. Peut-être parce que les Italiens eux-mêmes connaissent mieux leur histoire. Mais j'étais un peu piégé parce qu'il y a eu 4 ou 5 livres qui avaient été publiés sur le même sujet la même année, parce qu'ils avaient dit ça à tout le monde, je suppose. Donc c'était le début de mon aventure éditoriale. Et puis depuis, voilà, comme vous le disiez, j'ai fait 31 livres, dont une bonne partie sont consacrés à mon autre passion de toujours, les Amérindiens.
Alors, les Amérindiens, on va commencer par le premier ouvrage.
Oui.
Je m'appelais Bui, la dernière Apache libre, publiée en 2019. Alors, Bui, elle est née en 1928 dans la Sierra Madre mexicaine. Elle est décédée le 5 octobre 1976 à Umbertide, en Ombrie, en Italie.
Tout à fait.
Alors, qui est Bui ? Qui était Bui pour tout ? Pardon.
Alors, si je peux revenir un peu en arrière, en fait, j'avais écrit beaucoup de livres sur certains chefs apaches, des chefs peu connus. Je m'intéresse beaucoup à des personnages peu connus. Et j'ai écrit un bouquin de synthèse qui s'appelait « Combat apache ». Et je dédiais le dernier chapitre à une histoire un peu mystérieuse. Une partie des Apaches avait survécu dans la Sierra Madre mexicaine, là où est né Bui. Et c'est une histoire très peu connue qu'on voit dans des entrefilets, dans les bouquins généralistes. Et je me suis donc documenté. J'ai sorti un ouvrage sur ce peuple de Sierra Madre. Et j'ai été frappé par l'histoire de cette femme. Sur laquelle il y a très peu de documents et qui a été capturée en 1932 dans la Sierra Madre mexicaine et qui donc a fini sa vie en Italie, comme vous le disiez. Et l'Italie, c'est donc le pays de mon père, et je me suis demandé comment une Apache née dans le nord-ouest du Mexique a pu finir sa vie dans le pays de mon père. Et ma fascination est née de là. Et je me suis donc penché sur sa vie qui est dramatique. Elle est née, on pense, en 1928, mais évidemment, il n'y avait pas d'acte de naissance chez les Apaches. Donc, c'est parce que quand on l'a capturée, elle avait environ 4 ans. Mmh. Elle a été capturée dans des circonstances dramatiques. Les Mexicains quadrillaient la Sierra Madre et à la recherche des derniers Apaches survivants. Et le contremaître d'un ranch voisin est tombé sur un petit campement où il y avait une femme âgée et cette fillette. Il a tiré sur la femme âgée et puis il a capturé la petite fille. Comme il ne savait pas trop quoi en faire, il l'a ramenée au ranch dont il était l'employé. Et il se trouve que les patrons de ce ranch... un couple de ce ranch, parce que ils étaient trois associés, étaient sans enfants. Et ils s'étaient persuadés qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants. Donc ils ont adopté cette fillette, qu'ils ont rebaptisée Carmela. Mm-hmm. Carmela Harris, Harris étant le nom de ses parents adoptifs.
Et ils ont eu une fille après Carmela.
Et comme souvent... L'adoption a déclenché, si je puis dire, une grossesse chez la maman adoptive, qui est donc tombée enceinte peu après, d'une enfant qui s'appellera Anne. Et ils ont décidé, du coup, de quitter le Mexique, parce que les conditions sanitaires dans un petit village des montagnes mexicaines n'étaient pas terribles. Ils sont allés d'abord s'installer à Douglas, qui est une ville frontalière. Et puis ensuite, ils sont allés à Los Angeles où la mère adoptive de Bowie travaillait pour les studios d'Hollywood. Donc elle a grandi à Los Angeles, elle a passé son adolescence là-bas, la majeure partie de sa vie d'adulte. Et en 1972, elle est allée une première fois en Italie, où sa sœur adoptive, Anne, s'était établie avec son mari, son mari était peintre, donc le beau-frère de Bowie était peintre. Et il y avait des résidences d'artistes en Europe. Et ils se sont installés donc à côté de Pérouse, dans cette ville, Umbertide. Mmh. Et ils étaient un peu inquiets par le devenir de leur maman, qui était âgée. Et du coup, ils ont fait venir à la fois la maman adoptive et Bowie en Italie pour un premier séjour en 1972. Et puis, ils ont décidé de les faire venir définitivement. Donc, Bowie et sa mère sont venus en 1974 s'installer définitivement dans ce petit village italien.
Bon. Alors, moi, ce que je voudrais, Giovanni Michel, c'est que vous parliez plus largement des Apaches. Pourquoi les Apaches et pourquoi une telle fascination pour ce peuple ? Parce que ce sont des guerriers et ce sont des résistants. Et Bowie est une héroïne, vous l'avez décrit. Et les deux ouvrages que vous lui consacrez, le premier c'est « Je m'appelais Bowie, la dernière Apache libre », et le deuxième, vous lui donnez la parole, c'est-à-dire que vous reconstituez sa vie, c'est « She Dizé, petite sœur ».
Petite sœur en Apache.
Oui. Voilà. En quoi les Apaches ont quelque chose de fascinant pour vous ?
Alors,
et pour nous, donc, du coup.
Les Amérindiens en général. Mm-hmm. Mais, alors pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Ce que je sais, c'est qu'encore une fois, c'est depuis mon enfance. Comme on ne peut pas connaître tous les peuples amérindiens, comme il y avait un reportage qui était paru sur Arte qui s'appelait 500 nations.
Oui.
Et il y a effectivement environ 500 peuples différents. Il est impossible
de tous les connaître.
Donc, je me suis intéressé à la fois aux Indiens des plaines, donc qui sont très, on parlera peut-être un peu tout à l'heure, qui sont très loin de la culture Apache, et aux Apaches parce que les Sioux, comme les Apaches, sont les derniers à avoir résisté à l'invasion nord-américaine des Blancs.
Et je pense à un film qui en parle avec émotion, Little Big Man, avec Dustin Hoffman.
Tout à fait. Alors, Little Big Man, ça se passe, c'est les Cheyennes, auxquels voilà. Je me suis intéressé aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, pourquoi les Apaches ? Il y a toujours la figure, de Geronimo qui est connue de tout le monde et qui n'était pas forcément le plus sympa. C'est le plus connu parce qu'il a résisté à la fin, avec 38 personnes, à 4000 militaires américains d'un côté et 3000 mexicains de l'autre, pendant les 6 derniers mois de sa lutte. Et il n'a jamais été vaincu ni capturé. C'est lui qui a choisi de se rendre. Mmh. Donc il y a un côté effectivement assez fascinant dans cette résistance acharnée. J'avais trouvé une explication irrationnelle qui a un rapport avec Bowie. Je me suis dit qu'en en écrivant son histoire et en la connaissant mieux, il se trouve que les dates auquel elle a eu des attaches particulières en Italie. En 72, quand elle y est allée la première fois, en 74, quand elle s'y est installée, et en 76, quand elle y est morte, correspondent à des dates où moi-même, j'allais en Italie du Sud pour voir mes grands-parents.
Ah, d'accord. Exact.
Donc, et je me souviens, mais est-ce que c'est un souvenir reconstitué ? Je ne sais pas, d'avoir vu sur le trajet en train un panneau Pérouse. Mais peut-être que ça, c'est un souvenir reconstitué. Et comme aurait dit mon analyste, je me suis dit qu'il y a eu une communication des inconscients et qu'elle a instillé chez moi cet intérêt pour son peuple.
D'accord. Alors, revenons aux Apaches. Ils ont résisté.
Tout à fait.
Ils ont été trahis. Parce qu'une fois qu'on leur avait fait des promesses.
Pour qu'ils se rendent, on avait promis au petit groupe qui était avec Geronimo qu'ils pourraient rejoindre leur peuple. En Arizona. Et c'est pas ce qui s'est passé. Quand ils se sont rendus, on les a mis dans un train et on les a déportés en Oklahoma. Mm. C'est une des raisons pour lesquelles Geronimo s'est rendu, parce que lui, il voulait continuer le combat jusqu'au bout. Mais on lui a dit, c'est plus la peine. Parce que ton peuple, maintenant, il a été déporté. Ouais. Faut pas espérer le retrouver en Arizona. Mm-hmm. Ils ont été déportés en Oklahoma. Et là, les membres du groupe de Geronimo ont dit c'est pas possible. On peut pas être si longtemps éloigné de nos familles, donc on préfère se rendre. Et Geronimo a dit je peux pas combattre tout seul.
Ouais.
Et donc il a accepté de se rendre pour qu'il puisse rejoindre sa famille. Mais, et c'est là où on rejoint Bouy, c'est que il y a 5 personnes de ce groupe de 38, 7 personnes très précisément. Il y avait 2 hommes, 3 femmes et 2 enfants. Ont refusé de se rendre et se sont enfuis. Au moment du transfert entre l'endroit où les Apaches se sont rendus et la gare où ils devaient prendre le train, il y a une nuit où ils se sont échappés et ils sont partis dans la Sierra Madre mexicaine où ils ont sans doute retrouvé quelques petits groupes qui avaient survécu là-bas. Et ces 7 personnes, plus les petits groupes qui avaient survécu là-bas, sont les ancêtres de Bouy.
D'accord. Alors, en quoi l'histoire des Apaches est tragique? Parce que d'un côté, ils avaient les Américains qui voulaient conquérir leurs terres, la fameuse avancée vers l'Ouest, et les Mexicains.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Alors, ils ont fait une alliance objective avec les Américains contre les Indiens.
Alors, il faut dire...
Il faut l'expliquer à nos auditeurs.
Voilà, il faut dire que le mode de vie des Apaches, du moins à l'époque historique, était un mode de pillard. Alors, en gros, ils allaient attaquer les ranchs ou les fermes voisines, ils piquaient le bétail, ils piquaient les chevaux, et de temps en temps, y avait des affrontements, donc ils tuaient les gardiens du bétail. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas fait beaucoup aimer du fait de leur mode de vie. Mais pour eux, ils estimaient ça normal, puisque ces gens-là n'avaient rien à faire chez eux, donc ils allaient se servir chez eux.
Tout à fait.
Mais ils le faisaient aussi aux dépens d'autres peuples amérindiens. Hein. Oui. Ils le faisaient aussi chez les Navajos, chez les Hopis, qui craignaient les Apaches de la même façon.
Mmh. Les Apaches ont une réputation d'être des guerriers de très haute volée.
Absolument. Mais ils avaient une éducation qui était très, très, très rude. Hein. Fallait pas être faible chez eux. Hein. Dès les petits garçons, on leur faisait parcourir des kilomètres avec de l'eau dans la bouche. Il fallait pas la boire et fallait pas la cracher. Et il fallait parcourir un certain nombre de kilomètres avec un périmètre qui s'élargissait avec l'âge.
D'accord. Donc,
et il y avait une succession d'épreuves de ce type-là pour faire des guerriers puissants.
Et c'est ce qu'ils étaient.
Et c'est ce qu'ils étaient, oui.
D'accord. Alors, revenons à Bouy. Pourquoi l'avoir appelé la dernière Apache libre?
Chiricahua, c'est une branche Apache, c'est la branche dont faisait partie Geronimo, qui elle-même est constituée de 4 tribus. Bouy appartenait sans doute à la branche Nedni. Ou Chiricahua, Bedonkohe, mais on ne sait pas. Bedonkohe, c'était la branche de Geronimo. Et les Dendni, en Apache, c'était Ndenda, ça voulait dire le peuple ennemi. Parce que c'était dans les Chiricahua, qui étaient déjà les plus aguerris des Apaches, c'était les plus durs. C'est ceux, sans doute, qui ont constitué les petits groupes qui ont résisté dans la Sierra Madre mexicaine. J'ai oublié votre question.
Oui, pourquoi l'avoir appelé la dernière Apache?
La dernière Apache libre, parce que c'est une des dernières, effectivement, qui a été capturée. Il y a eu 2 autres enfants qui ont été capturés après elle. Elle a été capturée le 4 avril 1932 et le 1er ou 2 juillet 1932, il y a eu l'attaque d'un autre camp Apache, beaucoup plus conséquent constitué essentiellement de femmes et d'enfants. Et il y a eu 3 enfants qui ont survécu à ce massacre, hein, parce que c'était un vrai massacre.
Tout à fait.
Et eux aussi ont été ramenés dans le même village que Bouy, qui les a sans doute rencontrés. Pas sans doute, d'ailleurs, on a une photo où il y a 2 vachers qui tiennent les enfants dans les bras, et Bouy est à côté d'eux. Donc elle a rencontré ces 3 enfants. Il n'y en a qu'un seul qui a survécu, 2 sont morts et un seul a survécu. Mais C'était vraiment les tout derniers qui étaient capturés. Et le petit garçon qui a survécu est mort avant Bouy.
D'accord.
Donc effectivement, de ce groupe-là, c'est la dernière, et du moins qu'on connaisse, qui est survécue.
Qui est libre. Donc, elle a beau avoir vécu avec les Occidentaux, elle a vraiment été élevée dans sa prime enfance dans la nation apache.
Jusqu'à ses 4 ans, oui.
Jusqu'à ses 4 ans.
Elle a dit très peu de choses là-dessus. En tout cas, c'était une vie extrêmement difficile parce qu'ils étaient constamment en alerte du fait des Mexicains qui les traquaient dans les montagnes. Alors, ils devaient pas faire de bruit. Leurs habitations étaient rudimentaires pour se fondre dans la végétation environnante et qu'on ne les voit pas. Le campement où on l'a trouvé, il y a un explorateur norvégien qui l'a décrit. Il était au bord d'une falaise pour qu'il puisse voir si l'ennemi arrivait. Donc c'était des conditions extrêmement difficiles. Sur le plan de la nourriture, c'est pareil. Hein, il devait se nourrir beaucoup de végétation locale, de racines, etc. Et de temps en temps, ils allaient capturer un cheval, une mule ou une vache dans les ranchs alentours. Mais c'était risqué parce qu'ils étaient très peu nombreux, très mal armés. Et à chaque fois, ils risquaient leur vie.
Alors, est-ce que vous avez des noms de spécialistes de la nation Apache à donner à mes auditeurs, outre vous, dont les livres, vos livres sont à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e, métro Oberkampf, République aux Filles du Calvaire, donc les trois dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes, autres que vous, qui ont écrit de façon intéressante?
Alors, il y a un historien qui s'appelle Edwin Sweeney,
voilà,
qui a consacré vraiment un travail énorme aux Apaches Chiricahua. Il a écrit une biographie de Mangas Coloradas, qui est pour le coup aujourd'hui encore vénéré comme un de leurs chefs les plus prestigieux. Il a écrit une biographie de Cochise et il a publié peu de temps avant de mourir un bouquin sur les dernières années de combat, donc sur Geronimo. Ce qui fait que quand on lit ces trois ouvrages, on a quasiment toute l'histoire Chiricahua.
D'accord. Alors, Sweeney, c'est S-W-2-E-N-E-Y.
N-E-Y.
Edwin.
Edwin. Voilà. Alors, ces trois ouvrages, si je peux faire la publicité pour un autre éditeur, sont publiés dans la collection Nuages Rouges aux éditions du Rocher.
D'accord. C'est noté. Bien. Alors,
il y a aussi une personne avec qui j'ai beaucoup correspondu parce que c'est intéressée aux Apaches de Sierra Madre et elle a écrit un des premiers articles sur le sujet et ensuite elle en a écrit d'autres qui s'appelle Linda Sanchez, mais qui a écrit aucun ouvrage traduit en français, donc il faut chercher ses ouvrages en anglais.
D'accord.
Alors elle a écrit des articles et elle a écrit aussi sur une dame qui s'appelle F. Ball, si je peux juste en parler deux secondes,
oui,
c'était
sûr,
une institutrice de formation et qui, à sa retraite, s'est consacrée à l'histoire des Apaches Chiricahua. Et donc, elle allait rencontrer les anciens, des gens qui avaient combattu aux côtés de Geronimo, notamment, dans la réserve de Mescalero, là où les derniers Chiricahua avaient été placés.
D'accord.
Et Linda Sanchez est une de ses élèves. Donc, elles ont écrit un bouquin ensemble qui s'appelle Inde. Inde, ça veut dire le peuple, en Chiricahua, et qui est constitué de témoignages de compagnons de Geronimo, notamment, qui n'est pas traduit en français non plus, mais qui est vraiment une base de référence parce qu'on a leur parole.
Et oui, et ils sont morts depuis. Alors, Bouy signifie œil de chouette ou oiseau de nuit à la vue perçante.
Oui.
C'est ça, hein?
Oui.
J'ai bien traduit.
Tout à fait.
Bien. Alors,
pourquoi ce prénom On ne sait pas. On ne sait pas. Elle se souvenait. C'est pour ça que j'ai intitulé le livre « Je m'appelais Bouy » parce que quand elle a parlé de, quand elle a témoigné de son existence auprès de l'explorateur norvégien dont j'ai parlé, qui s'appelle Elgingstat, il l'a interviewé. Alors, il y a 3 ou 4 pages dans son livre où on a la parole de Bouy. Et c'est elle qui dit « On m'appelait Bouy », qui n'est pas un nom Chiricahua.
D'accord.
Qui est un nom Apache de l'Ouest. Alors, c'est encore des Apaches, mais c'est un peuple différent des Chiricahua. Ce qui me fait supposer que la population dont elle est issue était constituée essentiellement de Chiricahua, mais il y avait sans doute quelques Apaches de l'Ouest qui s'étaient évadés aussi des réserves.
Et qui les avaient rejoints.
Parce qu'ils savaient que dans cet endroit-là du Mexique, il y avait un noyau d'Apaches qui vivait librement.
D'accord. Michel Giovanni, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur les deux autres livres. Merci. C'est bon, on est à...
فيتلو جكيا وندني قتلو أهلي وحياوني ولما حياوني سماوني زينت كلا من تلو جك وندني خرجت عصفور وحداني مسجون في قفص عديا
Chers auditeurs de La Rage de Don, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Giovanni Michel sur les Amérindiens et sur Bouy. Alors, nous allons parler du deuxième ouvrage qui a été publié, si mes souvenirs sont exacts. Alors, attendez, je regarde.
12 ans après, 2021 dans mon
2021, souvenir. Tout à fait. Alors, chez Dizet, Petite Sœur. Alors là, vous avez pris le parti de donner la parole à Bouy.
Alors, je parle à la première personne.
Voilà.
C'est moi qui parle à la première personne,
mais...
où j'imagine effectivement l'avoir rencontré. Donc c'est une version très romancée du premier.
Voilà, tout à fait. Mais c'est passionnant parce que toutes les saisons, ça me fait penser au film ça m'a fait penser à un moment donné à un film, Un homme nommé Cheval, où en quatre saisons, on a toute la vie de la tribu, on a la vie de ce lord anglais capturé par les Indiens et qui devient leur chef à la fin. Je ne vais pas spoiler le film pour ceux qui veulent aller
voir. Oui, les anciens. Il y a même un deuxième qui a été tourné, Le retour de l'homme nommé Cheval.
Oui, tout à fait, exact.
Donc, l'acteur s'appelle Harris, mais j'ai oublié le prénom.
On retrouvera ça sur Internet. Alors, Chier disait, petite sœur, pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce que quand le premier ouvrage est vraiment historique. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de parties de la vie de Bouy qui sont mystérieuses. On a une vingtaine d'années durant lesquelles on ne sait pas ce qu'elle a fait, d'une part. Et d'autre part, j'avais en quelque sorte une sensation d'inachevé à la fin du premier livre. Pour cette partie mystérieuse et parce que j'avais en fait envie de m'en rapprocher. Et puis entre-temps, j'ai eu un certain nombre de documents supplémentaires. Je continue d'ailleurs des recherches. Hein. Je suis en train de travailler un troisième livre sur le même sujet à partir de documents que j'ai eus depuis. Et je me disais que pour presque la toucher... ce que j'imagine hein, d'ailleurs dans ce livre, une version romancée me laisserait plus de liberté. Mm-hmm. Et c'était une façon de la voir autrement, de la voir de plus près. Je l'ai appelée petite sœur, bien qu'elle soit bien plus âgée que moi.
Hein. Oui.
Et où j'imagine effectivement l'avoir vue dans son enfance, l'avoir vue dans son adolescence et l'avoir pour finir rencontrée en Italie et la prendre à mon bras dans les rues de Rome, qui est une de mes villes favorites et qu'elle aimait beaucoup aussi. Et c'était vraiment une façon d'être avec elle, vraiment.
Mmh. Ben, écoutez, c'est très réussi parce que vraiment... Quand on a fini Bouy, on a envie de lire la suite. C'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je me suis dit, bon, je vais prendre les deux. Et après, je suis tombée sur le troisième. Et là, je me suis dit, on va faire la trilogie.
Alors peut-être en plus, juste sur l'histoire des Apaches, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose de très compliqué, qui nous est étranger, qui est lointain.
Et
parler d'elle sous une forme romancée, c'était aussi une façon de la rendre plus accessible au lecteur français. Mm-hmm. Qui, peut-être, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il faut peut-être les lire dans l'ordre inverse. La version romancée d'abord, et puis ensuite, pour celui qui veut vraiment connaître l'histoire avec des éléments historiques, prendre Je m'appelais Bouy.
D'accord.
Mais le deuxième est peut-être plus accessible. Le
deuxième est beaucoup plus accessible que le premier, tout à fait. Mais pour en revenir aux Apaches, vous dites qu'ils sont lointains, c'est vrai, ils sont en Amérique. C'est un peuple qui a fait partie de la nation indienne, qui du Groenland jusqu'en Amérique latine avait son continent à lui, a subi un génocide.
Tout à fait.
Physique, culturel, mais ils sont proches de nous. Ils sont proches de nous parce que ils ont vécu des souffrances et ils les ont surmontées.
Pas tous, malheureusement, pas tous. Hein. Parce que si vous prenez par exemple l'exemple des Chiricahua, l'armée américaine s'est quand même acharnée dessus parce que c'était les derniers résistants. Après, comme on en discutait un peu avant l'émission. C'est pas toujours si clair que ça. Il y a un général qui s'appelait le général Crook qui a participé à ce génocide parce qu'il les a combattus de façon acharnée et sans pitié. Et puis il détestait Geronimo, donc
il a mis le paquet.
Il a mis le paquet. Mais en même temps, une fois la guerre finie, il s'est interrogé sur le sort qu'on leur avait fait. Et de la parole trahie. Oui. Il a pas digéré que le gouvernement américain dise aux Apaches pour qu'ils se rendent, écoutez, vous allez rejoindre les vôtres, et puis on vous donnera un territoire en Arizona, et qu'à la fin, ils soient déportés en Oklahoma. Et non seulement déportés en Oklahoma, mais Geronimo et son petit groupe, eux, ont été déportés en Floride, dans un premier temps, pendant 2 années en Floride, avant de pouvoir rejoindre les leurs en Oklahoma. Et donc, ils ont été trahis 2 fois. Et effectivement, ce général, à la fin, était devenu un défenseur
de la cause indienne.
en tout cas de la cause des Apaches, qu'il aimait, pour lesquels il avait
de l'estime,
beaucoup d'estime, parce que c'était sans doute parce que c'était un militaire et que les autres combattaient aussi bien que lui.
Oui.
Et il y avait sans doute quelque chose comme ça, mais en même temps, sur la destinée du peuple, il était... Il n'était pas du tout d'accord avec ce que faisait le gouvernement. Il y a un autre général qui s'appelait Howard, qui était un ami de Cochise, qui était un grand chef. Et pareil, il respectait beaucoup, beaucoup, beaucoup ce peuple. Mais donc voilà, c'est pas univoque. C'est pas univoque. Reste quand même qu'ils les ont combattus, que, comme vous dites, il y a eu toutes les phases de génocide. Il y a eu la déportation, il y a eu la famine, parce qu'on, en tout cas pour les Indiens des plaines, on a exterminé les bisons. Il y a eu les maladies. Il faut savoir qu'on pense qu'il y a... je ne sais plus quel pourcentage, mais je crois que c'est 50 ou 60% des Amérindiens qui ont été tués par la maladie.
L'alcool ensuite.
Mais parce que, par exemple, la variole s'est répandue comme une
traînée de poudre.
Une traînée de poudre sur tout le continent. Et des peuples qui n'avaient jamais vu un seul blanc ont été décimés par la maladie.
Ils
n'étaient pas immunisés. De toute façon, la variole, même en Europe, hein, ça a fait beaucoup de dégâts. Donc il y a eu la maladie. Il y a eu la famine, je disais, pour les bisons. Il y a eu la déportation. Il y a eu les attaques des militaires, bien sûr. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont été vaincus, on a pris les enfants, on les a retirés de leur famille, on les a mis dans des pensionnats où on leur interdisait de parler leur langue. On leur coupait les cheveux, on leur mettait des uniformes pour que, surtout, ils ne ressemblent plus à des Indiens. Et il y avait un des premiers qui a fondé l'école de Carlisle, qui est restée tristement célèbre, c'était le colonel Pratt. Et ce qu'il disait, c'est « il faut tuer l'Indien pour sauver l'homme ».
Tout est dit. Rien à rajouter. Tout est dit sur le génocide culturel. Alors, les Apaches, c'est un peuple, on se sent, grâce à la lecture de votre livre, on se sent proche d'eux. Moi, je me suis sentie proche de Bowie, puisque je viens d'un continent qui a eu à subir la colonisation. Et donc, il y a eu des génocides aussi dans mon continent d'origine. Donc, je me sens proche de son combat. Et vous en faites une héroïne. Vous en faites une... C'est une leçon de courage que sa vie.
Tout à fait.
Voilà. Et quand on prend le troisième ouvrage, qui s'appelle Zingala Nuni, l'orpheline de Wundoni, là, c'est encore plus marquant. Alors, on va revenir sur cet ouvrage en particulier et sur ce qui est arrivé le 29 décembre 1890 à Wundoni.
D'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Alors, juste un mot, parce que je sais qu'on a choisi une chanson qui s'appelle Zinkala.
Voilà.
Et qui évoque justement cette figure Sioux. Lakota, très précisément, parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on les appelle Sioux. Sioux, c'est un nom qu'on leur a donné, un nom que leurs ennemis leur ont donné. Qui était en fait Nadoes Sioux, qui voulait dire comme des serpents. Parce qu'ils avaient une réputation de guerriers qui arrivaient silencieusement dans les campements. Donc, eux préfèrent s'appeler, en tout cas, pour ce peuple-là, les Lakota. La Crota, si on veut prononcer avec l'accent.
D'accord.
Et eux aussi ont opposé une résistance très, très, très forte à l'avancée des troupes nord-américaines. Et en 1890, il y a un prêcheur qui était d'un autre peuple, qui était Paiute, qui s'appelait Vovoka, qui a inventé une danse, la danse des fantômes, dans laquelle il disait « Si vous dansez avec suffisamment de foi et que vous chantez avec suffisamment de foi, les morts vont revenir et les blancs vont disparaître. » Ça s'est répandu dans l'ensemble des tribus, et particulièrement dans les tribus des plaines, notamment chez les Lakota. Et le gouvernement, au début, a regardé ça de loin et puis s'en intéressait de près en disant si ça arrive chez les Lakota, ils vont se révolter. Donc, ils ont envoyé l'armée. Et à la fin 1890, il y avait un chef qui s'appelait Grand Pied, Bigfoot en anglais, qui avait été un des promoteurs de cette danse. L'armée a cerné son camp et lui a dit maintenant il faut nous suivre, on va vous emmener à Moudonni. Le vieux chef était très malade, il était atteint de tuberculose. Il y avait certains de ses partisans qui voulaient résister. Lui a dit non, je ne peux pas mettre la vie de mon peuple en danger. Donc il a accepté. Et son peuple s'est retrouvé dans cet endroit qui s'appelle Woodnodney, qui est actuellement sur la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, où je me suis rendu l'année dernière. Et ils ont regroupé là, et petit à petit, d'autres troupes militaires sont venues, entourées, cerclées, le camp des Lakota. Ils ont picolé toute la nuit. Et le matin, ils ont regroupé les hommes et ils leur ont dit « Maintenant, il faut que vous rendiez les armes. Toutes les armes que vous avez. » Donc, ils ont ramené, ils ont fait un tas avec leurs armes. Et les Blancs ont dit « Mais non, il n'y en a pas assez. Là, vous en avez caché quelques-unes. » Et il y avait un jeune Lakota qui était sourd. Donc, il n'avait pas compris ce qu'on disait. Et il avait gardé un fusil sous sa couverture. En tout cas, c'est comme ça que... On pense que les choses se sont passées et on a voulu lui prendre le fusil. Lui, il n'a pas compris pourquoi. Il y a un coup de feu qui est parti en l'air. Et à ce moment-là, tous les militaires qui entouraient le camp ont mitraillé. On mitraillait tout ce qui bougeait. Donc les femmes et les enfants ont tenté de s'enfuir. Les hommes ont tenté de récupérer les armes pour résister et faire en sorte que les femmes et les enfants puissent se sauver. Et la bataille, si on peut appeler ça une bataille, c'est plutôt un massacre, a duré à peine quelques heures. Mais les soldats ont poursuivi les femmes et les enfants sur 2 ou 3 kilomètres, en les abattant, en tirant dans le dos, etc. Et il y a eu environ, on ne connaît pas le nombre exact, mais environ 250 morts sur 350 personnes. Une des femmes avait un bébé, elle a couru tant qu'elle a pu, elle a été touchée dans le dos, comme la plupart, et elle a dit, sans doute, hein, elle s'est dit, je veux sauver mon enfant, elle a creusé un trou dans le sol, elle a mis son bébé dans le sol, elle s'est couchée dessus, et il y a eu 3 autres femmes qui, elles aussi, étaient mourantes, qui se sont couchées, elles aussi, dessus, pour protéger l'enfant, qui était dans le trou. Et là-dessus, les soldats, une fois leur massacre terminé, sont partis. Et les secours n'ont pas pu arriver tout de suite parce qu'il y a eu une tempête de neige qui s'est déclenchée pendant 2 jours. Et le site était complètement inaccessible parce que c'était une tempête. Le 3e jour, donc on était, je crois, le 1er janvier, des militaires sont venus pour essayer de ramasser les corps. Et notamment se servir pour prendre les amulettes, les vêtements, etc. Et un des militaires, quand il était sur le champ de bataille, donc, a entendu un enfant pleurer. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait un enfant qui pleurait. Et à la fin, ils se sont aperçus que... Capitaine Bartlett, c'est son nom que je cherchais. Ils se sont aperçus que ça venait de sous une sorte de monticule. Ils ont dégagé le monticule, il y avait un corps de femme, 2 corps de femme, 3 corps. Ils ont dégagé les corps de femme et dans le trou creusé dans le sol quasiment gelé, ils ont trouvé le bébé. Et ce bébé, c'était Zinkala Nouni. Ils l'ont ramené au camp des militaires et ils ne savaient pas trop quoi faire de ce bébé. Ils l'ont confié à une femme Lakota qui était mariée avec un métis qui tenait un comptoir là. Et sur ces entrefaites arrive un colonel américain qui ensuite a été promu général, le général Leonard Colby, qui est arrivé après la bataille. Lui, il voulait venir là pour récolter de la gloire militaire. Mais trop tard, le massacre avait été commis. Mais il a entendu parler de ce bébé. Il est allé dans le camp Lakota, il a rusé comme il a pu, et il a pris le bébé, un peu comme un trophée. C'était son trophée à lui, il n'a pas pu participer à la bataille, il repart avec un bébé. Et bébé qu'il a adopté sous son nom et qu'il a baptisé Elisabeth Margaret. Margaret.
Voilà. Et donc c'est...
Elle avait environ 6 mois au moment... Enfin, 6 mois, un an, au moment où elle a été
Et c'est cette adoptée. Passionnante histoire qui fait l'objet du 3e livre. Donc, je voudrais qu'on revienne à Bouy. En fait, le fil conducteur de ces 3 ouvrages, ce sont les enfants captifs.
Tout à fait.
Pour Bouy, il y a une documentation moindre. Vous avez eu beaucoup plus de mal pour avoir les éléments sur Bouy que pour Zingala. Nouni, qui, elle, était, parce qu'elle était fille de général, était exposée, avait une vie mondaine, parce que la mère avait une vie mondaine. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour réunir les éléments sur elle que sur Bouy.
Absolument. Alors, je me suis intéressé à elle, comme vous le disiez, parce que au départ, je voulais comparer, en fait, le destin de deux filles orphelines, deux peuples différents, mais qui, toutes les deux, avaient une destinée, dire parallèle, parce qu'elles étaient orphelines toutes les deux et elles ont été adoptées toutes les deux par des familles blanches. En fait, je me suis vite aperçu qu'il n'y avait rien de commun entre elles, mais le point de départ était ça, était celui-là. Et oui, elle a été exposée, mais dès le début, parce que son père était quelqu'un de connu. Sa mère militait à l'époque pour le droit de vote des femmes, elle était donc connue aussi. Si bien que dès le jour où elle est apparue dans la vie du général, il y a eu des articles qui ont été publiés dans des journaux. Alors quand elle était petite, il y en avait beaucoup. Puis au fil du temps, ça s'est raréfié parce que les gens s'intéressaient un peu moins à l'histoire. Mais quand elle est décédée, ça a été signalé aussi dans les journaux, par exemple. Oui, on a une abondante documentation journalistique.
Alors, Zingala... qu'est-ce qu'on peut, sans raconter le livre, parce que je veux donner envie aux gens de lire le livre qui est à la librairie Publico, si je devais résumer en un mot son profil. Allez, on va avoir des termes, psy. Alors, en un mot, s'il faut la caractériser.
Là, c'est une héroïne. C'est difficile.
Elle aussi.
Je dirais que je reprends l'oiseau blessé.
Ah.
Un oiseau à qui on a coupé les ailes.
Tout à fait. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Un oiseau en cage. Tout à fait.
Plus qu'en cage, parce qu'elle a gardé quand même forcément un trauma psychique de ses premiers mois, elle a passé sa vie coincée entre deux mondes. Parce que son peuple d'origine, elle le connaissait très peu. Elle a essayé plus ou moins de renouer le contact, mais elle était tellement maladroite avec ses habitudes qu'elle avait eues dans la société blanche qu'elle a été plus ou moins rejetée.
Oui, tout à fait.
Elle était coincée dans la société blanche parce que là aussi... Que ce soit son père adoptif ou sa mère adoptive, ils s'en sont servis comme d'une image pour se faire valoir.
Tout à fait.
Et du coup, elle était... faut voir les écrits des journaux de l'époque où on parle de la petite sauvage. Donc, elle était à l'aise ni dans un monde ni dans l'autre.
Tout à fait. Elle était entre deux mondes. Oui, tout à fait. Mais comme Bouy, c'est une enfant captive à qui on n'a pas demandé son avis et à qui on a imposé une vie. Et, ce sont des héroïnes.
Tout à fait.
Voilà. Oui, ce sont des héroïnes.
Elles se sont... L'une comme l'autre étaient coincées dans une situation qu'elles n'avaient pas choisie. Et elles ont eu toutes les deux un rapport ambigu avec leurs origines, en fait. Et elles ont porté cette blessure-là toute leur vie.
Bien. Mais écoutez, Michel, Giovanni... Je vous remercie.
Je vous en prie. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et pour évoquer ces figures qui vraiment... Alors, au tout début, si je peux ajouter un mot, vraiment,
oui,
personnage de Bouy me touche profondément. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, vraiment, je m'en sentais très proche. Et j'ai eu du mal à rentrer dans la vie de Zingala Nouni. Parce que je restais accroché à Bouy. Et ce qui a... Ce qui a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a permis de finir le livre, c'est d'aller sur sa tombe.
Ah.
Ce livre-là, j'ai mis longtemps à accoucher, si je puis dire, 4 ans environ. Et il a fallu que j'aille en 2024 la voir là-bas, sur place, sur sa tombe, pour que je puisse terminer le livre.
D'accord.
De la même façon que j'ai pu terminer le livre de Bouy quand je suis allé sur sa tombe en Italie.
Bien. Bon. Eh bien, on vous en remercie.
Donc, je vous rappelle en prie, merci à vous.
Je rappelle que les trois ouvrages sont à Publico Et
excellente librairie.
Merci. Qui est 145 rue Amelot, dans le 11e, métro République, Oberkampf, aux Filles du Calvaire. Merci Giovanni Michel.
Merci beaucoup à vous.
Merci chers auditeurs de votre fidélité. Faites attention à vous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Merci.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge. Tu juges ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous veut la preuve.